Bonjour, bel après-midi. En ce dimanche 30 juin 2013, bienvenue dans ce groupe de partage autour de la non-dualité dans l'esprit d'un courant miracle. Bienvenue également à tous les chers frères et sœurs pour ce dernier groupe de la saison avant la reprise en début septembre probablement. Voilà, je vous accueille avec un son de cloche pour commencer par une écoute partagée. Voilà, dans ces groupes qui portent sur la non-dualité, l'unité de toutes choses, le fait que nous ne pouvons pas ne pas être qui nous sommes. Nous sommes tous un et il n'y a pas de choses séparées, même si on en a la perception. Et la perception diffère de ce qui est vraiment. Ce qui est, tout ce qui est, c'est Dieu, tout ce qui est, c'est l'amour et tout ce qui est inchangeable. Invulnérable, et dans notre expérience humaine, nous avons une perception radicalement différente pour la plupart, et le but de ces groupes est de passer d'une perception dualiste à une perception une, avec parfois de la progressivité, parfois c'est plus radical, parfois c'est des éclairages, parfois c'est des révélations, et donc nous partageons sur nos perceptions dans nos vies de tous les jours, sur notre vision de ce monde, sur comment interpréter la réalité avec amour ou avec la peur, sachant qu'il n'y a que ces deux façons de réagir à un événement dans ce monde qui implique une réaction de notre part. Voilà, alors on dit souvent Dieu est tout ce qui est, Dieu est toute chose, Dieu est la totalité de ce qui existe réellement. Et on dit aussi, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, et en cela réside la paix de Dieu, qui est une citation d'un courant miracle. Alors, comme je l'ai dit, ce qui est réel, c'est Dieu ou l'amour. Ce qui est réel s'étend en permanence. L'amour a vocation à grandir, à devenir de plus en plus grand par rayonnement, par création. Et ce qui existe réellement ne peut jamais cesser d'exister. C'est de toute éternité. Réel et présent. Par contre, ce qui est fabriqué par notre perception, par notre mental ou par notre ego a vocation à disparaître, à se dissoudre, à changer de forme, à ne plus exister à un moment ou à un autre. Voilà, et sans transition, j'ai ouvert un courant miracle tout à l'heure. À un moment du chapitre 25, dans la version française, c'est la page 562, le paragraphe 6, et j'ai trouvé une citation que j'avais déjà annotée par le passé, qui m'a parlé énormément et qui peut vraiment aussi être un condensé de ce qu'on dit, parlant de lumière et de ténèbres, d'amour et de peur. Alors, ça dit ceci. Chacun ici est entré dans les ténèbres. Or, nul n'y est entré seul. Pas plus qu'il n'a besoin d'y rester plus qu'un instant. Car il est venu avec l'aide du ciel au-dedans de lui, prêt à le guider hors des ténèbres, dans la lumière à tout moment. Le moment qu'il choisit peut être n'importe quel moment. car l'aide est là, qui n'attend que son choix. Et s'il choisit de se servir de ce qui lui est donné, alors il verra chaque situation qu'il considère auparavant comme un moyen de justifier sa colère, tourner en un événement qui justifie son amour. Il entendra clairement que les appels à la guerre qu'il entendait auparavant sont réellement des appels à la paix. Il percevra que là où il donnait l'attaque n'est qu'un autre autel où il peut, avec autant de facilité et bien plus de bonheur, accorder le pardon. Et il réinterprétera toute tentation comme étant juste une autre chance de lui apporter la joie. Waouh, c'est un passage que je sens vibrant et qui résume bien cette histoire de perception. Et chaque situation est une occasion de réinterpréter. Et d'ailleurs, le sous-chapitre s'appelle « Perception et choix », hein, chapitre 3. Enfin, c'est sous-chapitre 3, je pense, hein, puisqu'il y a chapitre 25, « La justice de Dieu ». Et puis, quelques pages avant, il y a juste deux petites phrases qui me sont aussi très parlantes. Si nous les entendons avec le cœur, si nous allons au plus profond d'elles-mêmes, et qui sont aussi un résumé de la non-dualité, très bref. Ce qui est le même ne peut pas être différent, et ce qui est un ne peut pas avoir de parties séparées. Bien sûr, ça semble évident, hein, ce qui est dit dans cette phrase. Mais en vérité, on parle de l'unité. Hein. Ce qui est un, l'unité, ne peut pas être séparé, à part dans une perception erronée, fausse. Je choisis de fractionner l'unité dans mon esprit pour voir des entités séparées. Et puis, ce qui est le même ne peut pas être différent. C'est le même amour dans toute l'unité. Il n'y a pas de degrés, hein. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de différence, hein, dans cette radiation d'amour, de félicité qui, dans laquelle nous baignons et dans laquelle nous sommes un. Peut-être dans des moments difficiles, des moments de dualité intense, des moments de plonger dans des ténèbres de perceptions fausses, peut-être cette phrase peut nous aider à nous ramener à ce qui est vrai. Ce qui est le même ne peut pas être différent. Ce qui est un ne peut pas avoir de partie séparée. Au plus profond d'une dépression, je peux me rappeler que malgré cette perception très difficile, douloureuse, souffrante, je suis encore et toujours un avec Dieu. Et que je ne peux pas créer de séparation à part l'imaginer. Donc je peux m'appuyer sur la seule vérité qui existe. Dieu est. Voilà, et ça peut m'aider à me reconnecter à l'amour. Et quand je plonge dans la dépression, dans la souffrance, voire dans la maladie, voire dans les moments qui précèdent la mort physique du corps. Alors, dans ces moments-là, je peux m'appuyer sur ce qui est vrai pour m'en servir comme un guide pour revenir à la réalité de toute chose. Voilà. Et puis, j'invite l'Esprit Saint à diriger mes phrases, à diriger aussi mes non-interventions. J'invite l'Esprit Saint à venir s'installer avec nous, aujourd'hui comme à chaque réunion. À chaque réunion, je sens qu'une présence forte guide mes paroles. Je suis assez étonné lorsque je m'écoute après de sentir qu'il y a une cohérence dans les phrases qui, entre guillemets, n'est pas naturelle pour moi et qui s'installe d'elle-même lorsque ces groupes ont lieu. Et je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour cette voix qui n'est pas ma voix mais qui prend, qui emprunte ma voix pour dire des choses. Je sais qu'il n'y a pas d'hésitation et que les phrases qui vont être dites sont clairement énoncées avant d'être prononcées dans mon esprit. Et je rends grâce pour cette présence qui vient valider le fait que nous sommes parfaitement guidés à tout instant pour faire et dire ce que nous faisons et ce que nous disons. Et à nouveau, je vais citer les phrases qui m'invitent à laisser cette présence œuvrer à travers moi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, et cette vibration qui nous accompagne pendant ce groupe, elle ne nous est pas particulière, elle est commune, tout le monde peut l'appeler, et une simple intention fait qu'elle est là immédiatement, puisque c'est de notre nature profonde dont nous parlons aujourd'hui. Donc dès que j'appelle à l'aide cette partie de moi qui est en contact permanent avec la vérité, avec la lumière, avec ma vraie nature, dès que je l'appelle, elle est là instantanément pour m'aider, pour me guider et pour me guérir dans tous les sens du terme. Parce que la vraie guérison est de l'esprit et il n'y a que des façons erronées ou justes de percevoir le monde. Et dans ces groupes, nous tentons de retrouver une vision juste. Parfois c'est progressif et parfois ça l'est moins. Une vision juste de ce monde, pouvoir être dans ce monde sans être de ce monde. Pouvoir voir l'agitation à partir d'un endroit calme. Pouvoir être sur le petit banc pour observer le tourbillon sans être dans le tourbillon. Il y a toujours un havre de paix quelque part en moi, avec un petit banc sur lequel je suis invité à m'asseoir pour observer tout ce qui est à l'extérieur semble s'agiter dans les jugements, les conflits, les guerres, tout ce qui apparemment est le résultat d'autres choix que celui de l'amour. Et donc chaque situation est une occasion de joie, chaque situation est une occasion pour choisir des choses réelles et vraies. Chaque situation peut être tournée en un événement qui justifie son amour, hein, qui justifie notre amour. Et il n'y a que des situations qui sont des expressions de peur ou ces situations qui sont des appels à l'amour et en fait ce sont les mêmes situations. Les situations qui expriment des vibrations basses de peur sont également des situations dans lesquelles il y a un appel à l'amour. Et est-ce que je peux entendre l'appel à l'amour et y répondre avec la voix appropriée, la vision appropriée, qui est une vision d'amour toujours, ou est-ce que j'interprète avec la voix de l'ego qui crée encore plus de séparation là où il y en a déjà, qui rajoute encore une couche de séparation. Mais avec l'aide de l'esprit pur qui réside en nous, nous avons le choix de rechoisir là où nous avons choisi avec une mauvaise perception, avec une perception en erreur. Nous avons toujours une façon de rechoisir. La porte vers notre propre lumière n'est jamais fermée réellement. Nous pouvons faire autant d'expériences que nous le souhaitons jusqu'à ce que l'expérience qui est alignée avec la perception juste se produise et nous ramène dans cette perception d'amour et nous révèle que sous des apparences tout à fait masquées, c'était l'amour qui s'exprimait dans cette situation-là. Et ce moment-là est un moment de grande félicité, puisque l'unité à ce moment-là est retrouvée. Dans les moments apparemment ténèbres, je ne vois que l'amour. Et dans les moments d'amour, je ne vois aussi que l'amour. Et donc, il y a unité. Le monde peut se transformer en une seule seconde et la beauté cachée derrière tout événement peut se révéler si je décide de faire le choix qui révèle ça. Voilà, ce ne sont que des mots et en même temps nous portons en nous cette faculté d'aimer véritablement, ce qui implique de pardonner les situations et les personnes sous l'angle de la vision juste, de pardonner en ne voyant que l'amour derrière toute situation, ce qui représente le véritable pardon. Cher frère, j'ai oublié qui tu étais, je n'ai pas reconnu ta lumière derrière la situation que tu me présentais. À présent, j'en appelle au Saint-Esprit pour corriger ma vision. Et nous pouvons nous réjouir ensemble de cette vision d'amour que nous interprétons d'une manière correcte maintenant. Ceci est un processus de pardon véritable. Et l'esprit juste, ce n'est rien d'autre que moi-même dans la partie non divisée, dans la partie perception juste, dans ma partie lumineuse que je porte en moi et que chacun porte et qui se nomme Saint-Esprit dans la terminologie d'un cours en miracle, mais qui est le même pour chacun d'entre nous, puisque cette partie n'est pas séparée de quoi que ce soit. Donc il n'y a qu'un seul esprit pur et il y a apparemment une infinité d'esprits divisés qu'on peut appeler aussi égo. Personnalité, fragment apparent de cette lumière divine. Voilà, donc bienvenue à vos partages, bienvenue à vos témoignages, bienvenue à vos éclairages, bienvenue à vos inspirations. Bienvenue à la vérité et bienvenue à tout ce qui apparemment nous éloigne de la vérité et qui mériterait d'être reconsidéré, réinterprété ici à la lumière de l'unité de Dieu est. Qu'il en soit ainsi et j'ai parlé.
Juste avant de commencer le groupe, j'ai tiré la leçon 45, qui est la suivante. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Bien entendu, c'est dit à tout le monde. Et tout le monde peut tout de suite, immédiatement, quelle que soit l'apparence, dire, en vérité, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. On va dire, bon, mais quelqu'un qui est en train d'essayer d'attaquer, de se venger, quelqu'un qui tremble de peur, quelqu'un qui se sent par la hauteur, coupable. Alors il peut dire ça tout de suite. Est-ce que vraiment c'est vrai? Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Est-ce que Dieu pense attaquer? Est-ce que Dieu pense avoir des problèmes? Ne pas être à la hauteur? Donc, nous voyons tout de suite qu'il y a quelque chose qui interroge. Et c'est comme ça dans tous les enseignements non-duels. Quand je dis enseignement, je dis c'est des propositions de voir les choses d'une certaine manière. Donc cette phrase, effectivement, Dieu est l'esprit avec lequel je pense, ben, ça interroge. Parce que en vérité, chacun peut le dire. Pourquoi? Dieu est tout ce qui est, il n'y a rien d'autre. Oui, mais quand même, c'est trop facile, on va dire, et c'est trop facile, en attendant, puisqu'on a des croyances, mais ok, elles sont fausses, donc il faut s'en occuper. Sinon, c'est une fuite. Voilà ce qu'on entend souvent, y compris dans les groupes spirituels. On a oublié que la séparation est impossible. C'est-à-dire que tout ça, c'est imaginé. Donc, quand il y a pensée d'attaque, de défense, pensée de ne pas être à la hauteur, d'avoir des problèmes, c'est imaginé. C'est imaginé par qui? Par l'un que nous sommes, qui s'amuse. Car comme l'un que nous sommes est infini, c'est l'esprit un, la pensée une, unique, première, sans second ni troisième. Et cette pensée, c'est une manière de, avec un P majuscule, la pensée, l'esprit, l'alpha, l'oméga, est infini, n'a aucune limite. Donc rien n'est défendu, rien n'est exclu de l'infini. Donc on peut dire, si je me place du point de vue de la réalité, qu'effectivement, tout frère, toute sœur, est l'esprit avec lequel Dieu pense. C'est l'esprit de Dieu. Le cours en miracle emploie cette image en disant qu'on a une partie à laquelle on croit, mais qui n'est pas réelle. C'est cette partie séparée. Mais elle est imaginée. Et c'est absolument fondamental d'admettre qu'elle est imaginée, qu'elle n'existe pas. C'est pour ça que vraiment, les 7 milliards que nous sommes ici sur cette planète, chacun peut dire, en cet instant précis, et vous qui écoutez ces paroles, vous pouvez le dire vraiment, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Parce que c'est la réalité. Oui, mais c'est trop facile parce que, effectivement, bon, faut quand même tenir compte de l'incarnation humaine, des défis qu'on s'est donnés, donc faut s'en occuper. Et oui, on est là, on s'en occupe, mais on s'en occupe comme quelque chose d'illusoire, quelque chose qui n'est pas réel. Pourquoi est-ce si important de dire qu'on s'en occupe comme quelque chose d'illusoire et qui n'est pas réel? Parce que Dieu est tout ce qui est, et parce que Dieu est la vie, nous sommes la vie. Dans la Bible, on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie se donne elle-même indéfiniment, à l'infini. Et donc, nous ne savons faire que ça. Nous sommes l'amour même qui se donne lui-même à l'infini. Et qu'est-ce que c'est que se donner à l'infini? C'est créer. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est créateur. Mais comme dit le courant miracle, créer, c'est pas projeter à l'extérieur de soi-même. Créer, c'est s'étendre soi-même. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et dans ce jeu illusoire où nous amusons à imaginer être séparés, c'est impossible. Eh bien, il est temps de vraiment admettre que c'est impossible. Et qu'il n'y a pas d'exception. Et que dire que, oui, en attendant, c'est trop facile, alors comme ça, on évite les de ce, l'introspection, on invite tout ça, et puis on s'innocente facilement d'exactions qu'on a pu faire par le passé, etc. Tout ça, non. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et Dieu est l'esprit avec lequel chaque frère, chaque sœur pense. Et la correction se fait en moi, pas à l'extérieur. Et c'est pour ça que le cours nous dit, ton frère est ton sauveur, ton frère ou ta sœur, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il te permet de rechoisir comment tu veux percevoir ton frère ou ta sœur. Comme étant une occasion d'avoir une correction faite en toi, et de voir la réalité de tout frère et de toute sœur, y compris un frère ou une sœur qui peut apparaître de manière apparemment très négative, très duelle, dans la colère, dans des tas de choses. La vérité, c'est la vérité. Donc Dieu est l'esprit avec lequel je pense, c'est vrai, mais alors cette pensée d'attaque, cette pensée de justifier la peine de mort, la guerre, la protection, la défense, la condamnation de telle ou telle personne. Alors ça, c'est Dieu ? Non, c'est inventé, c'est imaginé, c'est pas réel. On croit que c'est réel, mais ce n'est pas réel. Ça n'existe pas. Ça semble exister. Ça fait partie de ce jeu, bien sûr. Mais ça n'existe pas. Et donc vraiment, on peut prendre le risque, il n'y a pas de risque parce qu'on éclate de rire, mais de dire vraiment, et c'est encore une autre leçon du cours, en pensant à tel frère ou telle sœur, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu ne sais faire que ça. Tu ne sais que bénir, c'est-à-dire redonner à l'autre qui il est. Et donc, peut-être tu sembles m'attaquer ou attaquer quelqu'un, ou tu sembles avoir peur, ou être terrifié, avoir un sentiment d'insuffisance, d'accord, ça c'est l'apparence. Mais dans le secret de mon cœur, je te dis, je reconnais qui tu es, et je te dis, je suis d'accord. Quand je te dis, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu, ça veut dire, je reconnais que tu ne sais faire que ça. Car Dieu est tout ce qui est, il n'y a rien d'autre. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Et donc toute situation, quelle qu'elle soit, est vraiment une occasion de rechoisir. De rechoisir la vérité. Et c'est la vérité. Et l'illusion, c'est l'illusion. C'est pas un mélange des deux. Souvent on dit, mais l'ego quand même existe, il faut s'en occuper. L'ego est inventé, imaginé. C'est utilisé, la notion d'ego, bien sûr. Comme un rêve est utilisé pour se réveiller. Il ne s'agit pas de nier l'expérience humaine, même s'il n'est pas réel. C'est une expérience, c'est un terrain de jeu. Donc, Dieu est l'esprit avec lequel je pense, Dieu est l'esprit avec lequel tous mes frères et sœurs pensent, mais pas l'ego. Et l'ego n'existe pas. C'est pour ça que le péché n'existe pas. Voilà encore une notion qui est souvent très difficile, qu'il est souvent très difficile d'admettre. La culpabilité n'existe pas, elle est imaginée. Les 7 milliards que nous sommes sont totalement innocents. Alors évidemment, je sais que ce que je suis en train de dire là, eh bien, ça fait bouger pas mal de choses. Et souvent, beaucoup d'auditeurs, de gens qui entendent ça, ne sont pas d'accord. Je le sais. Est-ce que Dieu est tout ce qui est ? Est-ce que nous sommes qui nous sommes ? Est-ce que Dieu est Dieu ? Est-ce que la séparation existe ? Il faut choisir. C'est l'heure maintenant. C'est pour ça que dans le cours en miracle, au chapitre 21, sous chapitre 7, qui s'intitule « La dernière question restée sans réponse », bien, il nous est dit, voilà, ok, vous avez des désirs d'harmonie, de paix, bien sûr. Vous voulez un royaume que vous gérez, qui ne vous gère pas, vous voulez un royaume où il n'y a pas de pécheurs, où c'est l'harmonie, la joie, bien sûr. Et donc, vous avez donc répondu à la question, d'accord, mais vous avez changé d'avis. Il y a une question, quand vous y répondez, vous ne changez pas d'avis. c'est est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Parce que c'est la vérité. Parce que en italique, ça veut dire c'est la vérité. Est-ce que vraiment c'est la vérité que Dieu est tout ce qui est? Et que la séparation n'existe pas. Que tout est un. La séparation semble exister. Bien sûr, c'est fait exprès. C'est un jeu. Tout l'univers entier est un univers de séparation apparente. La nature, qui est une image de notre unité, en même temps, elle n'arrête pas de s'auto-dévorer. Tous les animaux se mangent entre eux, on mange tout. Tout le monde se mange ici. Et puis il y a apparition de quelque chose, naissance, vie et mort, c'est-à-dire disparition. Et donc on croit à la mort, parce qu'on voit des formes qui changent d'une manière perpétuelle. C'est comme ça, c'est l'expérience. Et donc l'illusion est très très bien faite. Donc la mort semble vraiment exister. Et on semble vraiment séparé. C'est pas nié. Simplement, on arrive à la dernière question restée sans réponse maintenant, où on nous dit, évidemment, là on arrive à un point crucial de notre cours. C'est un point crucial. Parce que si nous répondons à la question sérieusement, honnêtement, est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Qu'est-ce que j'ai nié? J'ai nié l'unité de toute chose. J'ai nié que Dieu est tout ce qui est et rien d'autre. Qu'il y a l'amour et le reste est inventé, imaginé. Y compris la souffrance, la séparation, la culpabilité, la peur, le doute. Tout ça, c'est imaginé. Ça semble avoir des motivations très réelles. Ça semble tout à fait approprié d'avoir peur, de se protéger, de prendre des assurances, de se faire du souci pour le futur, de se culpabiliser, de se déclarer pécheur. Bon, ça semble opportun. Eh bien non. Et ce que je veux, c'est que j'ai nié parce que c'est la vérité. C'est tout. Et ça, c'est une question qui se traite en moi-même, pas à l'extérieur. C'est mon affaire, comme vous qui entendez ces paroles, c'est votre affaire. C'est pas l'affaire des autres. Oui, parce que la conscience évolue, très bien. Mais elle évolue, qu'est-ce que nous faisons ici sur cette planète? Nous sommes venus nous incarner pour être ensemble, on va dire, 7 milliards d'identités divines. 7 milliards d'êtres de lumière. Et le travail se fait individuellement dans 7 milliards, apparemment, parce que c'est une apparence. Ce n'est qu'une apparence. C'est pour ça que ceux dont nous parlons, en non-dualité, c'est quelque chose qui se passe en nous-mêmes, pas à l'extérieur, jamais. C'est pour ça qu'un cours en miracle, c'est un self-study course, c'est un cours qu'on apprend seul, c'est un cours qui se travaille à l'intérieur. Et on a besoin d'attendre personne à l'extérieur pour travailler le cours. Ça n'empêche pas qu'évidemment, nos relations sont des cadeaux merveilleux. Chaque personne rencontrée est un cadeau pour le travail qui se passe en moi, à l'intérieur. Évidemment, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc Dieu est l'esprit avec lequel je pense. C'est ça. Et quand j'ai une pensée d'attaque, de défense, de peur, de doute ou de culpabilité, d'où vient cette pensée? Ça vient d'une perception fausse. Mais le Fils de Dieu est tellement aimé, il est tellement amour qu'il peut même imaginer l'impensable. C'est pour ça que le cours nous dit que le cours ne peut pas donner de réponse à ce qu'il n'en a pas. Et il dit par exemple, l'ego ne cesse de poser des questions telles que comment l'impossible s'est-il produit? Et l'ego, effectivement, est totalement incohérent, mais c'est soigneusement caché. Comment l'impossible s'est-il produit? La question n'a pas de sens, puisqu'on admet que c'est impossible et on dit que ça s'est produit. Donc c'est impossible. Eh bien, c'est la même chose pour la séparation. Si la séparation n'est pas possible, elle ne se produit pas. C'est impossible. Et le fait que nous soyons ici, à faire cette expérience, sur cette planète, ensemble, dans un temps illusoire, mais les physiciens quantiques nous démontrent que le temps n'existe pas, et pourtant, nous le vivons, les 7 milliards que nous sommes, comme étant réels, nous avons la sensation que le temps linéaire est réel, très bien. Nous faisons une expérience commune, mais c'est une expérience d'amour qui nous permet de nous réveiller ensemble. Comment? Par l'amour. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? c'est un état d'esprit, c'est qui nous sommes. Et nous sommes esprit. Nous ne sommes pas le corps. Le corps ne pense pas. Le mental est au service du cœur. Le cœur, c'est le cœur, c'est l'essence de qui nous sommes. C'est qui nous sommes. Donc vraiment, Dieu est l'esprit avec lequel je pense, et Dieu est l'esprit avec lequel tous mes frères et sœurs, les 7 milliards ici, pensent. Dieu est l'esprit avec lequel nous pensons. Dieu est l'esprit un que nous sommes.
Alors, j'ai été guidé à relire de nouveau un passage d'un document que j'ai reçu et qui cite une phrase d'Osho, un maître tantrique. Et cette phrase est réellement très appropriée dans ce groupe puisqu'elle parle vraiment de l'unité. Hein. Alors, voilà, ça commence par une petite introduction, c'est pas Osho qui dit ça, mais c'est quand même, ça décrit pourquoi le Tantra. Le Tantra est une démarche spirituelle, une voie vers l'accomplissement de soi, la relation à l'autre et à l'univers. Il apporte un éveil de notre plein potentiel en tant qu'être humain, dans toutes les dimensions du vivant, en utilisant entre autres la sexualité et notre énergie de vie, pour nous guider vers une expansion de conscience. Ça, c'est plutôt la démarche hein, du Tantra. Et voilà maintenant ce que Osho a dit. Le Tantra est le grand enseignement, le suprême enseignement. Le Tantra dit, ne créez aucun conflit en vous. Acceptez tout. Et de cette acceptation proviendra la transcendance. En fait, amour et haine, colère ou compassion sont un seul et même phénomène. Le Tantra aide à comprendre que la division provient de votre mental et que c'est à partir de là que vous commencez à lutter. Si à travers le Tantra vous pouvez voir le un dans la dualité, alors la transcendance a déjà commencé. C'est la voie royale. L'esprit du Tantra, c'est de devenir conscient que toute chose est bonne et sacrée. La vie entière est profondément amoureuse de vous. La vie tout entière vous aime et cherche à vous guérir. L'amour s'écoule de partout. Il vous suffit de vous abandonner. Voilà pour cette citation. Alors, ne créez aucun conflit, acceptez tout, et de cette acceptation proviendra la transcendance. Ça peut être un très court résumé de l'amour. L'amour est entière acceptation. Hein. L'amour est entièrement dépourvu de conflit. L'amour est entièrement dépourvu de jugement. Le jugement est conflit. Le jugement oppose une opinion à une autre, une situation à une autre. Donc accepter tout, encore une fois, ce n'est pas cautionner les choses. Hein. On le dit souvent, je le répète, cautionner, c'est prendre parti, et c'est donc juger aussi. Quand je cautionne, hein, je me positionne pour l'un ou pour l'autre. Mais accepter, c'est reconnaître le fait, hein, reconnaître que la situation s'est produite sans porter de jugement si elle est bonne ou mauvaise, cette situation. Ça peut se résumer à deux mots. Cela est. Et dans cela est, c'est un état entièrement dépourvu de jugement. Et si on transcende un petit peu cela est, ça revient à dire Dieu est. Hein. Dieu est, c'est l'état non jugeant de toute réalité. Dieu est. Donc accepter pour la plupart d'entre nous c'est difficile. Accepter tout ce qui se passe, alors c'est facile d'accepter les bonnes choses. Oh oui, encore, donnez-moi-en encore des bonnes choses. J'accepte. Je signe le chèque en blanc sur la banque de l'abondance. Et accepter les injures, accepter les meurtres, accepter la pédophilie, accepter les génocides, ça l'est beaucoup moins. Hein, parce que nous avons un esprit qui juge et qui est divisé. Et voir derrière toutes les choses difficiles, des situations dans lesquelles je peux choisir l'amour, est la voie royale de la transcendance. Voir le un derrière le divisé, c'est le but de notre vie humaine et c'est aussi le but de nos groupes ici, hein, dans ce lieu. Et le tantra vise à la réunification en nous-mêmes des parties divisées. Par exemple, réunifier le masculin et le féminin. Le masculin qui sait bien gérer, organiser, trancher, décider. Et le féminin qui sait bien exercer sa sensibilité, qui a une perception de la grâce, de la beauté, qui n'est pas dans le temps, qui utilise l'intuition, la connaissance. Les deux sont les deux faces d'une pièce, le pile et le face. Et le tantra dit, soyez complets, hein, prenez les deux et unissez-les. Et comme ça, vous n'avez plus besoin de quémander à l'extérieur les particularités qui vous manquent, que vous ne sentez pas développées en vous. Si vous ne sentez pas que vous êtes sensible, alors vous serez attiré par une femme sensible parce que vous n'avez pas ça. En fait, vous l'avez, mais c'est pas développé. Vous l'avez et vous essayez de le prendre de l'extérieur plutôt que de le développer à l'intérieur. Et le tantra dit développer à l'intérieur en utilisant tous les miroirs que vous voyez à l'extérieur qui vous disent « Ah, oui, c'est ça que je veux, voilà. Donc je vais me marier avec elle, comme ça je vais la voir. » Je vais la mettre dans mon lit, comme ça je vais l'avoir tout près de moi. Tout ça c'est illusoire, parce que tant que j'ai pas développé cette caractéristique qui semble me manquer, alors je vais tenter de m'approprier l'autre, hein, et je vais rester divisé parce que c'est toujours à l'extérieur de moi. Et donc le tantra débute aussi par un dialogue entre un dieu censé représenter le principe masculin, Shiva, et une déesse censée représenter le principe féminin, Shakti. Et avant que ce dieu et cette déesse n'entament leur dialogue, ils étaient dans l'unité, de manière indifférenciée. Et c'est tout à fait ce que nous disons ici. Nous sommes des êtres divins et nous sommes sortis en imagination de l'unité pour jouer à la dualité. Eh bien, Shiva et Shakti ont fait de même. Ils étaient dans la béatitude et pour jouer, se sont séparés en principe masculin, principe féminin, et Shakti a posé à Shiva 112 questions et Shiva a répondu sur des préceptes qui visent à faire grandir la conscience de manière à retrouver l'unité. Et à la fin de ce dialogue, Shiva et Shakti, rayonnant de béatitude, se sont à nouveau retrouvés dans l'indifférencié. Donc c'est comme une parenthèse de division émaillée par des questions. Comment être plus conscient? Chaque question répond à comment être plus conscient avec les sens, avec notre quotidien, avec notre mental aussi. Par exemple, il y a une des pratiques qui dit « Avec les deux mains, obture les sept orifices de la tête et reste comme ça, sans aucune perception. » Alors déjà, il faut trouver les sept. Mais bon, je vous laisse faire. Hein, vous les trouverez comme moi, je les ai trouvés, parce que c'est pas évident. Ou alors, les bras et les mains dans le vide accèdent à la non-spatialité. Des choses comme ça, très, très étonnantes apparemment, où entre inspire et expire, trouve l'instant de pause qui contient l'éternité, et dans cette éternité-là accède à la béatitude, cet instant infinitésimal où l'air s'immobilise entre inspire et expire, et entre expire et inspire. Donc, on a 112 choix, il paraît qu'il y en a forcément un pour nous, qui nous guidera vers l'illumination, c'est-à-dire le réveil complet à qui nous sommes. Mais c'est à nous de le trouver en pratiquant, puisque nous avons tous des tournures d'esprit, des identités différentes, alors il y a 112 possibilités de retrouver le 1 qui attend en nous notre décision d'y revenir. Donc, c'est intéressant parce que le courant miracle est un outil pour progressivement nous prendre par la main, nous amener dans un voyage qui apparemment prend du temps entre division, entre illusion et unité réalité. Le tantra fait la même chose en utilisant le corps, en utilisant aussi l'énergie sexuelle. Mais en vérité, tout ça, ce sont des formes différentes qui visent un même but, hein, qui visent la reconnaissance de qui nous sommes en vérité. Certains privilégieront la voie du corps parce que c'est pour eux une manière de se sentir connecté au vivant. D'autres utiliseront la méditation parce que dans cet aspect-là, ils se sentent plus réceptifs à la vie, à l'univers, à Dieu. C'est pour ça qu'il y a plein de formes différentes qui visent toutes le même but, c'est de nous ramener à l'espace du cœur, hein, à l'espace de l'amour, à l'espace dans lequel la perception une est naturellement présente. Alors, la question est, qui juge ? Seul le mental peut juger. Et qui aime ? Seul le cœur peut aimer. À partir de là, c'est simple. Chaque fois que je fais appel au jugement, je fais appel au mental divisé, et donc je divise un peu plus. Chaque fois que je fais appel à l'amour, je fais appel au cœur unifié, à toute chose, et je réunifie un peu plus. Alors il y a un peu plus et un peu moins dans notre monde parce que nous avons créé le temps, hein, qui est un processus par étapes. Mais en vérité, dans le non-temps dans lequel notre être véritable, divin, réside, dans ce non-temps-là, il n'y a aucune progressivité. D'abord, il y a l'instant présent, le maintenant éternel, qui est le seul temps présent, existant. Il n'y a jamais de avant, il n'y a jamais de après dans cet éternel maintenant. Et en vérité, nous pouvons avoir cette perception-là aussi dans ce monde duel, en acceptant que le présent, c'est un cadeau à se faire, et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Et ce présent-là, c'est l'éternel maintenant, si je ne fais pas appel au mental pour m'en évader. Donc nous avons le choix de rester ou non dans le présent. Et en vérité, nous sommes dans un monde de choix. Alors que dans le monde de Dieu, il n'y a absolument aucun choix. Il y a l'amour et c'est tout. Il n'y a pas d'opposé. Il y a le bien et c'est tout. Il n'y a pas d'opposé non plus. il y a la félicité et les choses sont sans aspect opposé. Et peut-être avons-nous choisi un monde d'opposé pour choisir aussi un monde où il y a des choix, où nous pouvons délibérément choisir l'amour ou choisir la peur pour avoir des contrastes, des perspectives, et le contraste peut être utile à nous en tant qu'être divin faisant une expérience humaine pour se rappeler de qui nous sommes par contraste. Alors, récemment, il m'est apparu à nouveau, parce que je le savais déjà, que dans une forme de méditation que j'enseigne qui s'appelle la méditation active, nous bougeons le corps, nous respirons, nous dansons, nous activons beaucoup, et par contraste, par perspective, nous plongeons dans le silence en arrêtant délibérément tout mouvement, en arrêtant délibérément tout son, pour être saisi, comme saisi par le contraste. Et peut-être que le contraste est utile pour nous, humains, pour savoir ce que nous désirons vraiment dans ce monde où il y a des choix et ce que nous ne voulons pas, hein, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et nous avons la haine en contraste à l'amour, et Osho disait, vous ne pouvez pas vraiment aimer si vous n'avez pas haï dans votre vie, hein. Parce que l'amour et la haine sont une seule et même chose, une seule et même les deux aspects d'une même pièce, hein, ça forme une seule entité. Et ainsi on va de la vie et la mort, du jour et de la nuit, du soleil et de la lune, et de tout ce qui a apparemment un opposé sur terre. Donc nous créons des contrastes, nous créons des perspectives, comme si c'était intéressant comme expérience de trouver une distance par rapport à l'amour en créant la peur pour décider de choisir l'amour, parce que c'est en face de nous, que c'est plus apparent en face de nous et quand nous en sommes apparemment éloignés, que lorsque nous sommes dedans et qu'il n'y a aucun choix, et que cette dualité-là nous sert à apprendre des choses en utilisant le contraste. Donc, phase ultime de la dualité, c'est la dualité n'est ni bien ni mal. C'est-à-dire que je vis dans un monde d'opposés, et c'est très bien comme ça. C'est très bien sans opposé, c'est-à-dire c'est parfait. Ça veut dire que c'est une expérience que j'ai choisie depuis une réalité divine, et cette expérience m'est utile, si elle comprend des aspects qui, lorsque j'ai oublié qui j'étais, par nécessité pour prolonger l'expérience, alors je semble entrer dans des choses difficile, ressenti comme affreuse, ressenti comme terrorisante, etc. Mais elle ne se passe pas. Et si j'ai dans ce monde de dualité un corps qui semble souffrir et aussi qui semble mourir à un moment donné, lorsque il est suffisamment usé pour ne plus pouvoir servir, alors, en réalité, personne ne meurt. En réalité, personne ne meurt. Si 10 000 personnes cessent de vivre dans un tremblement de terre, en réalité, personne ne meurt. Il y a des circonvolutions d'amour qui génèrent ces expériences où nous pensons que des êtres vivent et d'autres cessent de vivre. Mais pouvons-nous considérer cette réalité terrestre autrement, avec cette pensée en tête, personne ne meurt vraiment. Personne ne souffre vraiment. Et donc, tout ceci est un théâtre d'expérience. Et donc, placé en dehors du contexte humain et divisé où le jugement existe, il n'y a plus aucun jugement, il n'y a plus l'amour qui joue avec lui-même. Alors bien sûr, c'est une réalité que bien peu peuvent expérimenter, mais rappelons-nous cette partie intense et profonde qui réside en chacun de nous et qui a le désir ardent d'aimer vraiment et d'être aimé vraiment. Et cette partie-là représente ce qui ne meurt pas, représente ce qui est invulnérable et inchangeable. Et donc nous la connaissons tous, cette partie. Mais nous nous en séparons bien souvent dans notre vie terrestre pour faire des expériences. Et revenir à cette partie est une façon de se guérir de la souffrance, de se guérir de la rancune, de se guérir du jugement, de se guérir de la guerre intérieure, de se guérir du conflit. Simplement, qu'est-ce que je veux ? Je veux aimer, je veux être aimé. Rien d'autre n'existe, rien d'autre n'existe. Et je me centre sur la seule réalité et je me rappelle que tout ce que je crois voir et tout ce que je crois juger aussi n'a pas de vraie réalité. Et à ce moment-là, c'est plus facile de rire de l'expérience que lorsque je suis plongé dedans au premier degré. Je peux m'élever un petit peu sur la situation et puis me rappeler de avec quel guide je considère une situation donnée. Si personne ne meurt, je suis venu pour faire autant d'expériences que je veux, dans lesquelles j'ai l'impression de commencer et de terminer ma vie, et puis j'ai l'impression de renouveler un autre cycle d'expériences à nouveau, pour me fournir une grande panoplie d'expériences. Voilà, c'est une phrase qui semble banale. Pour certains, elle peut sembler déconnectée même de la réalité, de cette réalité humaine. En vérité, elle l'est, puisqu'elle ne parle pas du tout du monde divisé, du monde de l'illusion. Mais c'est une phrase qui m'aide. Personne ne meurt vraiment. Personne ne souffre vraiment. Tout ceci est imaginé. Alors, même si je le pense, même si ce ne sont que des mots, même si ce sont des mots qui sont duels, qui peuvent être opposés à d'autres croyances, d'autres perceptions, alors ces mots s'appuient sur une non-dualité, une unité, une vérité que je pressens intensément et sur laquelle je m'appuie pour les dire. Et en ce sens, il témoigne du monde réel. C'est une émanation, je dirais. Comme si le monde réel et le monde divisé n'étaient pas dans notre perception étanche. En vérité, ils sont complètement séparés. Mais dans notre perception, il peut y avoir une forme de perception de mélange des deux. Je sens la voix du Saint-Esprit qui guide mes paroles et pourtant je suis dans la dualité. Parce que j'autorise dans mon esprit divisé que ces deux facettes se manifestent en même temps. Mais ces mondes sont dans la réalité des ensembles disjoints. L'un est un ensemble de croyances et l'autre est tout ce qui est. Et il n'y a pas de lien ni de pont entre les deux. Mais notre esprit a fabriqué des choses qui incluent une progressivité. qui inclut un retour à la maison par étapes. Parce qu'un retour à la maison immédiat pourrait provoquer dans notre esprit divisé une grande terreur. C'est ce que dit entre autres Jésus dans un cours au miracle, et c'est là pour cette raison que ces enseignements et d'autres nous accompagnent avec douceur en nous prenant par la main et en calmant petit à petit toutes les peurs et les terreurs, mais aussi la haine qui se trouve dans l'esprit divisé. J'ai parlé.
Tu viens de parler de rire, de rire de l'expérience. Et effectivement, je vous propose de regarder vraiment en face cette bonne blague qui peut paraître terrifiante, mais vraiment qui est une blague. Parce que nous voilà à parler de non-dualité, donc de non-jugement. C'est par là que tout commence. Je souligne tout de suite que ne pas juger ne veut pas dire, quand on dit je ne juge pas, ça ne veut pas dire que je cautionne quelque chose. Je vous parle de, par exemple, mettons la pédophilie, je ne juge pas la pédophilie, mais je ne cautionne pas la pédophilie. C'est-à-dire, je n'ai pas de jugement, c'est tout. Il y a des choses qui se passent. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne blague? Parce que nous avons choisi une expérience duelle, donc nous sommes venus nous incarner dans une société qui fonctionne apparemment avec des règles, des droits et des devoirs, et donc des lois, des obligations et des interdictions. Et ça en est plein. Le code civil, le code pénal, les structures religieuses, les polices, les douanes, les religions, les organisations. C'est plein d'interdits ou d'obligations avec des droits et des devoirs. Voilà. C'est tout est comme ça. Il n'y a pas une seule loi qui n'est pas faite à partir de la peur. Et dans notre code civil, là, on a une loi qui est fantastique, extraordinaire, qui s'appelle la loi de non-assistance à personne en danger. Voilà. Ben, effectivement. Alors, on va tous en prison où tous ceux qui parlent de non-dualité vont effectivement aller en prison, puisque nous disons clairement que personne n'est en danger, puisque tout le monde est divin. Alors donc, ça paraît comique, parce qu'en fait, ça peut paraître terrifiant. Et nombre d'entre vous, nombre d'entre nous, souvent, nous avons l'impression que il nous est difficile de fonctionner dans cette société, qu'on ne va pas être compris par notre entourage, qu'on va nous demander des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, etc. Absolument, absolument. La loi de non-assistance à personne en danger, un procureur peut venir dans n'importe quelle situation et prouver que telle personne était en danger. On peut même prouver que je le savais, évidemment c'est inventé, puisque moi je pense que personne n'est en danger. Et donc à ce moment-là, je suis condamné à une peine, une amende, peine de prison. Et qu'est-ce que c'est que la prison? La prison, c'est effectivement, c'est de l'ego. C'est-à-dire, c'est davantage de séparation. Et on met quelqu'un de côté et il ne voit plus personne. Il est prisonnier. Et l'ego s'auto-détruit en permanence, c'est ça. Il cherche à détruire, mais d'autres, des boucs émissaires, des coupables, jamais lui. Et c'est un phénomène absolument général. Donc on est vraiment dans un monde insensé, comme dit le cours en miracle. Pour la plupart des gens, ça va à peu près, parce qu'il faut surtout pas regarder ça, parce que c'est trop terrifiant. Ça fait trop peur. C'est ce que vient de dire Avi en disant on va doucement. Parce que comme après tout nous sommes, même si c'est une illusion, on a vraiment l'impression d'être là, et on a envie de vivre à peu près correctement sans être là à avoir des souffrances, ou à être mal, ou avoir trop peur, ou se sentir trop coupable. Donc on tergiverse, on fait des concessions, on cherche des distractions, des fuites. Mais quand on regarde vraiment en face, on éclate de rire parce qu'on s'aperçoit que on est mort au monde, on est mort à l'ancien, complètement. On n'a aucune chance, aucune. Personne n'en a jamais eu, mais on a cru en avoir. J'aime bien cette loi de non-assistance à personne en danger, parce que la question c'est que nous sommes tous créateurs. Et donc si quelqu'un croit au danger, il crée le danger. Ça devient sa réalité. Et ça c'est l'ego. Et donc voilà, nous sommes 7 milliards à venir ici sur cette planète duelle, donc à endosser un ego. C'est obligatoire, sinon on ne peut pas venir ici. Et donc c'est une bonne blague. Parce qu'apparemment, on est foutu, puisqu'on vient ici avec un ego, donc on essaie de tergiverser, et nous sommes en train de parler, de nous défaire de l'ego, donc de passer au-delà. Au-delà des règles de l'ego. Mais on a oublié qui nous sommes quand nous avons peur de ça. Parce que c'est nous qui créons complètement le jeu, mais le vrai nous. Et cette fameuse phrase de la leçon 135 du cours, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent et à venir, est planifié avec amour et bienveillance par l'un, par l'esprit on va dire, par l'esprit un, l'esprit d'amour, dont le seul but est ton bien et le bien de tous. Donc il est dit clairement que tout est planifié par l'esprit. Et que le monde de l'ego pense que nous faisons des choses, mais non, nous faisons rien du tout. Le petit personnage que nous croyons être ne fait rien. C'est pour ça qu'on éclate de rire. Et donc on peut très bien fonctionner puisque tout est pris en charge. Mais pris en charge par qui? Par l'amour, par l'un, par ce que le cours appelle le Saint-Esprit à l'œuvre dans le monde. Et donc c'est drôle, c'est amusant comme tout. Et donc on y va gaiement, on se jette là. Et qu'est-ce que... De quoi faisons-nous l'expérience? De miracles, de guérisons, de situations qui se résolvent. On voit les gens autour de nous qui commencent à plus sourire, à plus se parler, à poser les armes. Pourquoi? Parce qu'on les juge plus. Parce qu'on arrive avec un cœur d'enfant. Et c'est ce que disait Jésus il y a 2000 ans en disant « redevenez comme des petits enfants ». Mais c'est ça, c'est très très fort. Au milieu d'un monde duel, un monde qui fonctionne avec l'ego, oui. Toutes les lois sont faites à partir de la peur. Eh bien on y va. Avec des règles, des obligations, des droits, des devoirs, des passeports, des frontières, des parcs-mètres, des limitations de vitesse, etc., un tas de choses, des impôts, très bien. Attention, on ne juge pas, donc on ne rejette rien. C'est ça l'amour, il accueille tout. Et alors, c'est tellement énorme, tellement gigantesque, ça comprend tellement tout, qu'on arrive au rire, et on éclate de rire, c'est tout. C'est amusant. Et ça devient vraiment un rêve heureux. Comme dit le cours en miracle. Et on devient des étudiants heureux. Ça devient très drôle. Mais c'est pas, on ne se moque de personne parce qu'on est en pleine compassion. Donc tous nos frères et sœurs qui croient aux règles, qui croient à l'importance de protéger les couples, les contrats de mariage, toutes ces règles qui sont faites à partir de la peur, à partir d'un besoin de protection, aussi bien de protection de soi-même que des autres, protection de clans, de villages, de tribus, de groupes, de clubs. Il y a un éclat de rire formidable. Mais c'est un éclat de rire qui a... Je dirais, si vous allez devant une école maternelle et vous regardez les enfants jouer, eh bien, vous éclatez de rire. Ils sont amusants parce qu'ils jouent à n'importe quoi. Ils jouent à se faire la guerre, à se tuer, etc. Et puis, on trouve ça merveilleux parce que tout va bien. Eh bien, c'est la même chose dans cette société duel. Tout va bien. Sous des apparences épouvantables, sous des tas de choses, eh bien, tout va bien. À cause de qui nous sommes. Et donc, ça devient très drôle. Et nous commençons à faire l'expérience de l'harmonie. l'expérience des guérisons, des miracles, des solutions de conflits, des choses absolument auxquelles on n'aurait pas pensé. Nous sommes en train de faire l'expérience de nouvelles relations entre nous, des relations amoureuses, des relations d'accueil. On voit les gens changer, nous changeons nous-mêmes et nous voyons les autres changer. Car après tout, l'état de conscience de l'humanité, c'est une somme d'états de conscience individuels. C'est comme ça. Alors on nous dit que c'est vrai que la Terre est un être et que c'est notre mère, puisque c'est notre mère, puisqu'on a choisi une expérience humaine avec un corps physique. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une relation corps amoureuse, donc avec la terre, avec les animaux, avec les minéraux, avec les végétaux, avec nos frères et sœurs, de la terre et également de l'espace. Et donc, ça devient très amusant parce que le fait de le vivre, ça commence, de le vivre vraiment en toute honnêteté, en regardant simplement, en reprenant cette image que dont parlait Avi tout à l'heure en s'asseyant sur le petit banc et en observant simplement ce jeu incroyable de séparation, de dualité. Mais l'observer, en l'observant avec un regard d'amour, ça change tout. Et on fait l'expérience de miracles. Encore une fois, ce livre dont nous parlons beaucoup, Un cours en miracles, ce titre bizarre, c'est pas au hasard. Un cours en miracles. Et les miracles se produisent naturellement. On les observe se produire. Les miracles ne sont pas réels en réalité, puisque dans le monde divin, il n'y a pas de miracle. On peut dire qu'un miracle, c'est le résultat d'un changement de perception. C'est tout. Et ça devient vraiment très très amusant. Mais encore une fois, c'est un amusement d'enfant, un amusement joyeux, où on se moque de personne, au contraire, on devient amoureux des 7 milliards que nous sommes, sans aucune exception. Je voudrais rajouter aussi une autre façon de voir ce dont je viens de parler, c'est le fait que nous sommes ce que Jésus appelle le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes divins, nous sommes illimités, donc c'est nous-mêmes qui choisissons notre expérience. Donc, nous choisissons de venir dans un monde duel, mais c'est nous qui créons complètement toute l'expérience. Pas le petit personnage que nous croyons être, mais l'être de lumière que nous sommes. Et nous sommes tous d'accord, les 7 milliards que nous sommes, les 7 milliards d'êtres de lumière que nous sommes tous d'accord avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est fait dans l'amour. C'est pour ça qu'il n'y a jamais aucune crainte à avoir nulle part, en aucune circonstance. C'est absolument totalement inutile, parce que nous sommes tous créateurs. Et les relations que nous avons les uns avec les autres, ce sont toujours des cadeaux. Sont toujours des cadeaux que nous nous faisons pour pouvoir rechoisir vraiment qui nous sommes, nous-mêmes, et qui sont tous nos frères et sœurs, sans aucune exception.
Il me revient à l'esprit une pratique tantrique qui a été depuis reprise par d'autres groupes qui consiste à poser une seule question à une autre personne pendant une semaine entière. Et la question, c'est « Qui es-tu ?» Et l'autre doit répondre sans utiliser le mental. Je la fais pratiquer sur une heure, mais j'imagine ce que ça peut donner au bout d'une semaine. Donc, chaque fois qu'il y a une réponse, la question est reposée. Et donc, Osho parle un peu de cette pratique qui est un petit peu provocante pour le mental parce qu'elle le pousse dans ses retranchements. Parce que lorsque j'ai épuisé la couche du social, je suis un homme, je suis un père, je suis père de deux enfants, il y a des profondeurs qui peuvent commencer à entrer en jeu. Hein. Je suis un homme qui est en quête du bonheur. Je suis bourré de peur. Voilà, on peut commencer à descendre dans quelque chose de plus intime. Et il s'agit de ne pas laisser d'espace entre qui es-tu et la réponse. C'est-à-dire de faire confiance que il y a quelque chose de sensé qui va venir après la question en tant que réponse, même si ça c'est pas imaginé d'avance. Voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle réponse vient après une semaine? Une semaine, bon, j'imagine que c'est pas il y a des périodes pour dormir aussi. Peut-être que c'est 3 heures par jour, je ne sais pas, comme d'autres pratiques, rire, pleure, silence, je ne sais pas précisément, mais au bout d'une semaine de réponse continue à cette question, Osho dit que la seule réponse qui vient, c'est « je ne suis rien ». Je ne suis rien du tout. Parce que tout ce que j'ai dit précédemment, je ne suis pas ça. Et ça peut nous amener à nous poser la vraie question, hein, sur profondément, en dehors de toutes les réponses que le mental peut trouver, qui suis-je ? Voilà. Pour descendre sans complaisance dans les profondeurs de la réalité de notre être. Je ne suis rien de tout ce que je crois, hein, ça veut pas dire que je ne suis rien du tout, mais tout ce que j'ai dit, c'est simplement une compilation de ce que je crois être. Donc, bien sûr, le mental n'aime pas du tout ce genre de questionnement très soutenu, très continu, et essaie tant bien que mal d'anticiper les réponses. Et c'est lorsque le mental commence à se lâcher un peu, lorsque les réponses sont plus spontanées, que certaines choses plus véritables commencent à apparaître. Voilà, j'avais envie de parler de cette pratique parce que Osho est un homme qui a cultivé l'art de la provocation dans sa vie. Alors c'était assez drôle parce que ça allait jusqu'à l'absurde. Il avait 24 Rolls, beaucoup se sont offusqués de ça. On lui offrait des Rolls, alors il avait une collection énorme. Il avait des montres du poignet jusqu'à l'épaule, le bras entier rempli de montres, alors qu'une seule suffit pour avoir l'heure. Mais en vérité, Il aimait poser questions, hein, il aimait bousculer, et il disait réveillez-vous maintenant, et par cette provocation, il espérait aussi bouleverser, provoquer un bouleversement à l'intérieur, provoquer une volte-face, c'est-à-dire une sorte de révolution qui dit, au lieu de regarder vers l'extérieur, je regarde vers l'intérieur. Et ce qui suis-je, c'est aussi une forme de, voilà, je reviens à la question, je reviens et je reviens et je reviens. Et tant que j'ai pas trouvé une vraie profondeur dans ma réponse, alors toutes les réponses sont futiles. Les réponses n'ont pas de sens en elles. Et donc c'est ce que j'appelle la provocation amoureuse. Hein. C'est pas une provocation pour embêter, pour déranger, mais c'est plutôt une provocation pour dire mais pourquoi il fait ça, hein? Mais quel est le sens en dessous de ça? Et je suis dérangé mais bousculé par cette personnalité qui est tellement atypique et il dérangeait tellement de monde que il a été chassé d'Inde et mis dans un avion. Parce qu'il a eu un contrôle fiscal, bien sûr, il n'était pas apprécié pour toutes ses déclarations, ni par les politiques, ni par les religieux, ni par la justice, les lois, parce qu'il était contre tout ça, il était pour retrouver la vérité de l'être en dehors du social. Et donc il a été mis dans un avion et l'avion a décollé et le pilote a demandé l'autorisation d'atterrir à 20 pays différents qui ont tous refusé. C'est un homme qui terrorisait les gouvernements parce qu'il avait un parler vrai. Hein, parce que et en France il a été aussi mis dans les sectes, classé dans les sectes. Je connais pas tous les détails de l'histoire, mais le fait est que sur Terre, ceux qui disent la vérité ne sont pas bien accueillis parce que cette vérité est contraire aux ordres établis, aux ordres religieux, aux ordres sociaux, aux ordres politiques. Et donc, Jésus disait la vérité, et puis on a vu ce que ça a donné. Et puis Osho a terminé, semble-t-il, parce que je ne suis pas certain de ça, mais c'est ce qui se dit, empoisonné aux métaux lourds, c'est-à-dire indétectables, dans une geôle, dans une prison américaine, parce que les États-Unis ont fini par accueillir Osho, et puis là-bas aussi ça a été un grand bouleversement, il a créé une commune, et c'est devenu, l'ego s'en est aussi un peu emparé, et c'est devenu quelque chose de très controversé à Oregon, dans l'Oregon. Mais ça a duré quand même un bon moment, au moins je crois une dizaine d'années, au point que ça commençait à avoir une influence sur la vie politique. Et là, c'était plus possible de le tolérer pour les gouvernements en place. Voilà. Donc, une des phrases qui accompagne ces livres, c'est « Jamais né, jamais mort, de passage sur terre entre telle année et telle année ». Et c'est la caractéristique de cet auteur, c'est que c'est le premier livre pour lequel j'ai lu deux pages ou quelques paragraphes. Et j'ai tout de suite reconnu que quelque chose résonnait en moi à ce qui était ma vérité. C'est comme si cette vérité était dite et que tout d'un coup je me suis rappelé de cette vérité qui était en moi, comme si c'était une cloche en moi qui résonnait au son de cette cloche qui vibrait dans le livre. Et donc, les personnalités atypiques dans notre monde peuvent être d'un grand secours pour penser différemment, pour voir différemment, avec discernement, et ce qui discerne, c'est l'espace du cœur, l'espace silencieux du cœur qui peut vibrer, qui peut résonner, qui peut, plus que le mental, nous éclairer sur ce qui est vrai et sur ce qui est stratégie, hein, sur ce qui est manigance au niveau de du mental, hein, au niveau de quelque chose d'inventé, je dirais. Voilà, en cette belle journée d'été, notre groupe continue de s'agrandir. Et je cède la parole.
Au sujet de ce que tu viens de dire d'Osho, sur Osho... Bon, les fêtes sont ce qu'ils sont, je ne les connais pas bien non plus, parce que souvent on raconte beaucoup de choses, même les disciples qui sont là disent des choses qui sont souvent un peu sujet à controverse. C'est pas important ça. Il y a quelque chose de nouveau là, on est en 2013, et avec le développement d'Internet, des vidéos, de tout ça, avec... accès à l'information d'une manière galopante, eh bien, tout ça, c'est soigneusement planifié par l'esprit. Et ce qui s'opposait à la vérité, c'est-à-dire au partage de la vérité, disons au partage de l'amour d'une manière beaucoup plus concrète, dans une société, effectivement, qui fonctionne par l'ego, sur l'ego, avec la séparation bien réelle, en apparence, eh bien, c'est en train de changer complètement. Et c'est vraiment nouveau. C'est pas pour rien qu'on nous a parlé que ça fait des millénaires que les Mayas ont prévu le 21 décembre 2012. Ça n'a de rien, mais c'est incroyable, cette affaire. Et parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de choses se passer d'une manière concrète, parce que effectivement, il y a eu énormément d'énergie, et il y en a toujours d'ailleurs, des énergies qui sont déversées du fin fond de l'univers, tout ça planifié depuis l'origine des temps, illusoire, mais depuis l'origine. Donc le réveil ici sur cette planète était planifié depuis longtemps, et même l'Atlantide qui s'est effondrée il y a environ, selon les estimations, entre 12 et 15 000 ans, eh bien faisait partie aussi du plan. Et l'effondrement de l'Atlantide était parfaitement à sa place. Mais maintenant, c'est terminé. Et donc, disons que, on voit par exemple Osho, on dit qu'il a été empoisonné, etc. C'est vrai qu'on assiste au dernier soubresaut des forces de l'ombre. Ça va continuer un peu, parce que ça part pas comme ça en 5 minutes, c'est long. Mais c'est irrémédiable, irréversible, et on va vers vraiment maintenant une invitation à exprimer notre vérité, à voir oser être nous-mêmes, oser vivre notre vérité dans l'amour, dans l'accueil, de manière très concrète, là où nous sommes. Parce que les énergies sont prêtes pour ça. Et on a main, message, information qui nous le confirme. Et puis aussi, chacun d'entre nous, nous faisons des expériences, et ça c'est fondamental, nous faisons des expériences qui nous le confirment sur un plan individuel, chacun d'entre nous. Car c'est ça qui est important, c'est notre expérience. Comme disait Bouddha, je ne sais pas s'il l'a dit, mais douter de tout, en tout cas, moi j'aime bien ça, douter de tout, y compris ce que je vous enseigne, tant que vous n'en avez pas fait l'expérience. Donc c'est notre expérience qui nous montre que ce dont nous parlons a un sens. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc si, par exemple, ça arrive souvent, quand on entend des propos tels que ceux qui sont tenus ici, ça peut attirer, et puis à des moments on dit « Oui, mais d'accord, mais moi je suis loin de ça, j'en suis pas là. » Non, non, tout ça, chacun, tout ça c'est imaginé. Chacun est parfaitement guidé d'instant en instant, et parfaitement à sa place, et suit son chemin parfaitement. C'est d'ailleurs ce qui est dit très clairement dans la petite introduction du cours en miracle, qui dit que une volonté libre ne signifie pas qu'on peut établir le programme, notre programme de vie. Il dit simplement que ça signifie une volonté libre, que nous pouvons choisir ce que nous voulons entreprendre à un moment donné. Et qu'est-ce que c'est que ce choix? C'est un choix de tout instant. Ça veut dire, je veux la vérité maintenant. Et donc, c'est simplement ce choix-là, et c'est un choix de tout instant, en fait. Et comme il n'y a que l'instant présent, c'est un choix de l'instant. Et chacun le fait à sa façon, comme il peut. À des moments, il y a des fuites, on s'en va, on ferme la porte, et puis à un moment, on revient. Et chacun suit son chemin parfaitement. Osho a joué son rôle parfait, comme vous qui êtes en train d'écouter ces paroles, et vous êtes parfaitement à votre place, et personne n'est en retard. On n'est ni en retard, ni en avance. Chacun est à sa place, et on va dire, exprime l'amour qu'il peut au maximum, avec ses croyances, avec tout le chemin de son âme, le chemin des expériences de son âme, de cette vie et éventuellement d'autres vies, si on y croit. Mais bien sûr, c'est un rêve, donc en réalité, il n'y a pas d'autre vie. Mais dans, disons, le voyage imaginaire, dans le rêve, oui, il y a effectivement des vies antérieures et il y a d'autres vies. Mais ça, c'est dans le rêve. Et comme c'est un rêve, en réalité, il n'y en a pas. Mais dans cette construction imaginée, gigantesque, dans cet univers, eh bien, il y a apparemment, effectivement, des vies antérieures. Et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas souvenir? Parce qu'en fait, chaque vie, elle est appelée à être vécue pleinement, et c'est comme un nouveau rôle de théâtre, et pour être bien joué, on ne mélange pas les rôles. Si vous jouez, par exemple, un certain personnage dans une pièce de théâtre, et que il y a une semaine, vous avez joué un autre personnage, mais l'autre personnage que vous avez joué, vous l'oubliez temporairement pour bien jouer votre personnage actuel. C'est aussi simple que ça. C'est une image, évidemment. Mais c'est vraiment comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des raisons que on a oublié d'autres expériences et qu'on est bien focalisé sur une expérience particulière, là, en 2013, ensemble, maintenant, sur cette planète. Même si, quand on dort, on part ailleurs, enfin, on part nulle part, mais, disons, on a accès à d'autres dimensions, on peut dire, ou d'autres mondes, et même maintenant, on a tous accès à d'autres mondes, mais c'est fait exprès qu'on est bien focalisé sur une expérience particulière terrestre, pour que le jeu soit joué le mieux possible.
J'ai été guidé à prendre un livre dans ma bibliothèque de Osho. C'est le premier livre d'Osho que j'ai lu, je crois. Je crois qu'il était épuisé à l'époque. Pas Osho, mais le livre. Il s'appelle Tantra, le chant royal de Saraha, aux éditions Le Voyage intérieur. Et puis, il y a un petit passage que j'ai pioché, que j'ai envie de vous lire maintenant. Alors, ce qui est intéressant de dire avant de commencer avec Osho, c'est qu'Osho a produit plus de 700 livres. Et ainsi, il a été l'auteur le plus prolixe au monde. Cependant, aucun des livres n'a été écrit de sa main. Ce sont tous des retranscriptions de ses discours. Et pour moi, c'est le seul auteur qui parle comme un roman, qui parle comme un livre, c'est-à-dire que chaque phrase est construite et chaque phrase qu'il dit a une cohérence et reliée au reste, et il y a une grande continuité dans sa parole et aussi une grande profondeur. L'autre particularité d'Osho, c'est qu'il n'y a pratiquement pas un seul sujet qui n'est pas abordé dans tous ses livres. Hein. Le bouddhisme, l'islam, la méditation, tout ce qui concerne la vie et l'expansion de la conscience, la vie humaine, a été abordé par Osho, et donc c'est un réservoir immense pour moi de sagesse. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « Briser les quatre sceaux », et à la fin de ce chapitre, page 101, il dit « L'univers est une université. Chaque instant est riche en leçons. Lorsque vous essuyez un échec, apprenez quelque chose. Progressivement, votre connaissance s'élargira. Votre vigilance s'aiguisera. Certaines erreurs ne se reproduiront plus. Dès que vous commencez à apprendre, vous vous rapprochez du divin. Et méfiez-vous des petites connaissances. Ne vous imaginez pas que vous êtes arrivé. Un peu de savoir rend les gens tellement suffisants qu'ils s'arrêtent. Ils ne cherchent pas plus loin. Le voyage est très long. Il est sans fin. Plus vous apprenez, plus vous pourrez apprendre. Vous vous rendrez compte que la connaissance n'a pas de limite. Simultanément, le mystère s'épaissira. Plus vous saurez, plus vous comprendrez que vous ne savez rien. Je le répète, ne vous contentez pas d'un peu de savoir. Ne vous reposez jamais tant que le divin ne vous a pas été révélé. Que votre nostalgie spirituelle soit permanente. Seuls ceux que rien ne peut combler, si ce n'est la conscience divine, atteindront le but. » Voilà, et cette parole-là, ces phrases-là sur le divin et la perception du divin renforcent ma croyance selon laquelle le tantra est une voie non duelle, est une voie qui vise à retrouver notre unité à l'intérieur. Une des voies, hein, bien sûr, une des voies que, à travers le corps, à travers les expériences que nous faisons dans le tantra, c'est l'élargissement de la conscience, le déconditionnement du mental qui est visé, hein, par des expériences qui repousse les limites de ce que notre mental autorise et peut produire parfois aussi certaines ouvertures dans la conscience. Et comme il dit, c'est une université et nous apprenons toujours plus en faisant toujours reculer davantage ce qui nous emprisonne, ce qui n'est pas libre en nous, dans notre corps et aussi dans notre esprit. Voilà. C'est ce que je voulais citer à titre d'exemple.
Cette notion du fait que c'est jamais fini, qu'on ne cesse jamais d'apprendre, souvent ça peut faire un peu peur et ça donne une frustration. Et une raison, c'est qu'on est habitué, dans le monde de la séparation, à chercher le bonheur, ou la joie, ou le bien-être, par quelque chose de précis. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que, je vais m'éveiller, ça y est, je vais enfin saisir l'éveil. Et en fait, il n'y a pas d'éveil et il y a éveil. Et le chemin n'est jamais fini. Et donc, qu'est-ce qui est frustré? C'est cette attente de posséder quelque chose, de pouvoir se reposer sur quelque chose qu'on possède, qu'on tient. Or, qui nous sommes, c'est infini. Et donc, c'est jamais fini, puisque c'est infini. Et peu à peu, alors qu'au départ, ça peut créer une frustration, ou quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder en face, ou presque un désespoir pour l'ego, pour ce besoin d'acquérir quelque chose, de se sécuriser par des formes particulières, par un état particulier. peu à peu, ça fait place à une joie incroyable. Parce qu'on expérimente la joie du nouveau à tout instant, l'émerveillement. Et ça devient une expérience qui s'auto-alimente, on peut dire. Je n'ai pas des mots pour dire, puisque c'est dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Mais la révélation, ce n'est pas quelque chose qui vient à un moment donné dans un temps linéaire, et puis voilà, ça y est, c'est là, et puis on le possède. Non, non, on ne possède rien du tout. On peut dire que la révélation, c'est un instant saint, dont parle le cours, par exemple. Il parle d'instant saint. C'est un instant où il y a quelque chose, il y a une communion, il y a une connexion, il y a une vision autre. On peut dire par des mots plus ou moins adroits ou maladroits que ça transcende le temps et l'espace. Mais c'est le cœur qui est concerné. C'est pas le mental qui peut expliquer ça ou qui peut en parler. Bien sûr, il en parle. Et on discute, etc., ce qui est normal, c'est utilisé pour ça le mental. Mais l'expérience du cœur, elle est éternelle, infinie, et ça devient une réjouissance, comme un état amoureux, qu'un état d'émerveillement, une joie qui s'étend sans cesse. Mais les mots pour en parler sont tout à fait inadéquats. C'est clair, les mots sont duels. Or, la seule réalité, c'est la non-dualité. Donc ce n'est pas les mots, bien que les mots sont utilisés dans ce rêve, comme toutes les formes sont utilisées, même si elles ne sont pas réelles. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut souvent paraître un peu effrayant, cette notion de « c'est jamais fini », et finalement ça devient extraordinairement puissant et merveilleux, progressivement, d'instant en instant, maintenant.
Et très brièvement, un des 112 sutras, 112 préceptes du tantra que je viens de lire, que je trouve très, très évocateur, très court aussi. Et chacun de ces sutras est censé nous amener avec la pratique à l'éveil, à l'illumination. Et celui-là, le numéro 18, il est presque drôle. Regardez avec amour un objet. Celui-là et pas un autre. Là, au milieu de l'objet, la félicité. Voilà, un sujet d'expérience très simple. Mettre l'amour dans son regard et laisser la félicité venir de l'amour que le regard porte. Bon, ça peut être aussi pratiqué comme Christophe Alain, regarder un point fixe au plafond pendant 4 heures d'affilée pour dépasser certaines perceptions.
On parle beaucoup de la merveille de la nature et sur YouTube, on voit de plus en plus de vidéos puisque c'est un instrument magnifique de toutes ces vidéos et puis et on voit beaucoup de documentaires. Et Avi nous a passé, nous a signalé un certain documentaire sur les oiseaux de paradis, en anglais The Birds of Paradise. J'étais regardé ça et puis c'était extraordinaire. Puis j'ai vu ces deux Américains qui même qui étaient en conférence, mais c'est pas sous-titré en français, c'était en anglais, ça dure une demi-heure. Et ils montrent leur travail pendant 7-8 ans, avec, incroyable. Et cette merveille, ils sont en train de s'émerveiller, ils parlent de l'évolution. Et en fait, ils parlent de cette merveille avec le rôle de la femelle qui est si important. Parce qu'elle permet au mâle de se dépasser, de se préparer encore plus à faire un apparat et avec des couleurs, des danses, des trucs. C'est incroyable. Et j'observais ça, j'ai regardé ça calmement hier, et ensuite j'ai fait silence. Et il est venu, j'ai peut-être pas les mots pour le dire, que c'est moi qui crée ça. Vous comprenez? C'est pas la nature comme ça, et puis on s'émerveille, et puis nous on est rien, non. Nous créons ça, ce qui fait que c'est même pas réel. C'est ce que j'ai vu, parce que j'ai dit, mais c'est pas réel ces formes-là, ces oiseaux extraordinaires, cette magnificence, cette harmonie des couleurs, des mouvements, ces relations sexuelles de ces oiseaux, entre la femelle et le mâle. Cet apparat incroyable, ces rencontres, et puis ces hommes qui sont là pendant 7-8 ans à grimper dans les arbres, faire des expéditions avec un matériel fabuleux. C'est pas réel, mais c'est magnifique. Et j'ai vraiment vu ça. Que c'est beaucoup plus extraordinaire qu'on pense, parce que nous sommes le créateur de ça, c'est nous-mêmes qui imaginons ça. Et donc cette nature incroyable, c'est le Fils, comme dit le Cours Miracle, c'est le Fils qui l'imagine avec une puissance infinie. C'est pas parachuté comme ça et puis on se prosterne devant et puis non, c'est nous, on est un. C'est extraordinaire. Et ça c'est infini. Et donc quand on nous parle de notre expérience terrestre qui va peut-être donner naissance à de nouveaux mondes, de nouvelles façons d'être, oui, pourquoi pas. Et même si c'est tout imaginé, pourquoi pas. Et ça, c'est infini. Et donc, nous commençons vraiment à être invités à prendre la pleine responsabilité de notre expérience. Tout ce qui arrive dans mon expérience, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai imaginé. Pas le petit moi, pas le petit personnage que je crois être, mais qui je suis, qui nous sommes. Et c'est vous aussi, et c'est ensemble, ensemble dans ce mystère, cette relation d'unité amoureuse que nous avons les uns avec les autres, où nous co-créons cet univers. Encore une fois, pas le petit personnage. Le petit personnage n'a aucun pouvoir. Que tout à l'heure, avait nous parlé d'eau chaude, etc. Et plus on apprend, plus on sait qu'on sait rien. Et pourtant, je suis en train de parler de reprendre notre pouvoir et le fait qu'on est créateur de tout. Mais ça, c'est le cœur qui l'appréhende, pas le mental. Et c'est fantastique. Mais c'est sans cesse une découverte éternelle dans l'instant éternel, dans l'instant présent. Je me sens encore appelé une nouvelle fois à insister sur une invitation pour nous de nous focaliser sur quelque chose d'important par rapport au nouveau, par rapport à ce que nous vivons maintenant, cette nouvelle terre, cet âge d'or, ce nouveau monde, et cette notion de relation, cette notion que, on nous l'a toujours dit, on le sait depuis longtemps, mais ça devient vraiment réel, où chacun de nous est parfaitement programmé pour jouer son rôle parfait, pour s'insérer dans cette pièce de théâtre. Et donc, personne n'est plus qu'un autre. Comprenant cela, eh bien, à ce moment-là, ça change complètement notre attitude dans la vie quotidienne. On sort dehors, on rentre dans un magasin, tous les ceux qui sont là sont à leur place. On va dans une banque, on va dans un transport public, on marche sur une route, dans la campagne. Chaque être rencontré est à sa place. Il joue son rôle parfaitement. Il est un cadeau pour moi. C'est un cadeau pour nous. Sans aucune exception. C'est d'ailleurs hallucinant, c'est vertigineux, c'est fantastique. Et c'est très concret. Donc, le fait d'en prendre conscience nous permet de rechoisir. Et c'est pour ça que le cours insiste en disant, en parlant de ta relation, la relation, où nous sommes invités à rechoisir comment nous voulons, quelle est notre intention, ce que nous voulons profondément en nous, comment voir l'autre, comment l'accueillir, dans l'amour ou dans la peur, dans l'accueil ou dans le rejet, sans aucune exception, aucune. Ça n'empêche pas que, pour certains d'entre nous, on commence par des choses plus faciles peut-être. Eh bien oui, on commence par des choses plus faciles. Il y a certaines personnes, on a l'impression qu'on ne peut pas leur pardonner. Très bien, ok, j'ai du mal à pardonner à telle ou telle personne, par exemple. C'est ok. Je m'accueille avec mes fragilités humaines, mon apparence, mon ego apparent, mes rejets, mes fermetures. Je m'accueille comme j'accueille les autres. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je m'accueille? J'ai une relation avec moi-même. Et qu'est-ce que je fais quand j'accueille les autres? J'ai une relation avec les autres. Et on peut dire que c'est toujours la même relation. C'est une relation qui est une invitation à choisir entre la peur et l'amour. Et donc, je vais parler de relation amoureuse. Donc, amoureuse vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres. C'est pareil. Et c'est la clé de ce nouveau monde. C'est nos relations amoureuses entre nous. Vraiment. C'est pour ça que nous observons que nous sommes de plus en plus amenés à travailler ensemble, à faire des projets ensemble où chacun va apporter tel ou tel élément. Alors qu'avant, c'était plus, bon, un tel enseignant, tel gourou, tel maître extraordinaire qu'on va voir. Très bien, c'est un rôle. Osho, par exemple, a fait un travail magnifique. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de relations de couple ou de relations de groupe. Et c'est ça qu'on va observer de plus en plus. Et si je suis guidé à parler et à partager ça maintenant, c'est pas au hasard. C'est quelque chose que j'expérimente moi-même de plus en plus, et j'observe aussi qu'énormément de personnes autour de moi me parlent de ça et me renvoient du feedback là-dessus, en disant que c'est aussi leur expérience, comme c'est aussi votre expérience à vous qui écoutez ces mots. Donc il y a une invitation à vraiment poser les armes, se regarder les uns les autres, et puis s'accueillir, et puis écouter notre guidance, chacun d'entre nous, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est guidé à de nouvelles choses qu'on fait ensemble, toujours ensemble, et non plus isolément, comme c'était le cas avant. Et c'est magnifique, c'est incroyable, parce que ça, c'est effectivement, c'est l'amour expérimenté dans des relations amoureuses entre nous.
Voilà, c'est bientôt l'heure de conclure ce groupe. Avant de conclure, il me vient de partager quelque chose que moi j'appelle des petits moments de bonheur inexpliqué. Alors, ça m'arrive à plusieurs reprises en ce moment. Je suis dans la tranquillité de cette maison. Je suis en train de ranger, de remettre de l'ordre, ou de préparer quelque chose. Et tout d'un coup, il y a une phrase qui surgit dans ma tête. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Et il y a une autre phrase qui dit, ah bon, pourquoi? Je sais pas. Comme un petit dialogue dans ma tête. Et il n'y a aucune raison apparente, c'est fugace, mais il y a un sentiment de bonheur à l'instant précis dans ce que je fais, quoi que je fasse, qui n'a pas de raison. Et c'est d'autant plus délicieux que ça n'a pas de raison apparente. C'est au milieu d'un truc. J'ai envie de dire que il y a comme une le sentiment, la perception d'une cohésion, la perception d'un équilibre. Peut-être quand je mets de l'ordre dans cette maison, ou quand je ne recherche rien en particulier, et que je fais ce que j'ai à faire, mais d'une manière lente et tranquille. Parfois, la phrase vient, ah, qu'est-ce que je suis bien. Ça veut dire, je ne change rien à ce qui se passe. J'accepte la situation telle qu'elle est. Et dans cet état-là, il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui me dit, je n'ai rien besoin de plus. Je n'ai pas de besoin en particulier pour apprécier cette seconde-là, ce moment-là, où les choses se passent tranquillement. Alors, je peux peut-être aussi me considérer comme privilégié, où je me suis donné cette chance d'habiter cet endroit très, très paisible, et où je mène ma vie à mon propre rythme. Mais tout à l'heure, une phrase venait dans mon esprit, et elle disait... L'amour se trouve partout où vous ralentissez votre rythme. Parce que l'amour ne peut pas s'exprimer dans l'agitation et dans les choses soutenues par le mental. Et que dans le ralentissement du rythme, notre être véritable peut s'exprimer davantage. Alors peut-être c'est ce qui se passe. Mais je sens que, pour moi, vivre à un rythme lent, c'est porteur. C'est porteur de plus savourer, plus déguster les moments simples, les moments pris un par un. Les moments qui sont pas associés au mental, pas associés à... J'en veux davantage, qui sont juste là, au présent. Mais ça a le don de me surprendre, cette phrase qui survient dans mon esprit, alors que je ne l'attendais pas, qui survient d'elle-même, et qui témoigne de ce petit bonheur inexpliqué. Voilà, je vous en souhaite plein des petits bonheurs comme ça dans votre vie. Chaque instant en est truffé, à condition de les saisir, de les percevoir, de leur laisser le temps d'être recueillis par la conscience. Et voilà, nous allons donc terminer à la fois ce groupe et cette saison d'enregistrement audio et de partage sur nos expériences de vie dans le but de de toujours plus de conscience de qui nous sommes en vérité, en réalité. Et donc je vous souhaite à tous un très bel été et au plaisir de recommencer ces groupes prochainement.